Je m'appelle Gérard Eugène Roy. Je suis né le 14 mai 1934. Selon ma mère, c'était un dimanche. Je suis le troisième d'une famille de quatre enfants. Le premier s'appelait Camille. Il est décédé deux jours après sa naissance. Oui, parce que j'ai retrouvé le livret de famille de mes parents. Il est cité dans le... Mais je le savais, tu vois.
Tes parents te l'avaient dit quand même?
Oui, mes parents m'avaient dit, quoi. Moi. Après ça, il y a eu Charles. Ensuite, moi, je suis le troisième. Et après moi, il y a eu, 8 ans après, Yves. Yves Jean-Marie Christophe Roy.
Oh là là. Et alors, que des garçons?
Oui, il n'y avait que des garçons, oui.
Et c'était où?
Je suis né à la maternité de Danemarie. Parce que mon père était cheminot et travaillait à la gare de Montrechâteau. Et les femmes de Montrechâteau venaient accoucher à Danemarie parce qu'il y avait une petite maternité. Alors tous les gens de mon âge qui étaient à l'école avec moi à Montrechâteau étaient nés à Danemarie. Depuis quelques années, la maternité de Danemarie a été fermée et maintenant on accouche à Belfort ou à Alkirch ou à Mulhouse.
Ouais.
Tu vois? Quand j'allais à Danemarie avec Louison, alors je lui disais, tu vois, c'est là que je suis né. On passait devant la maternité qui se trouve près de la poste. Et alors je lui disais, tu vois, quand je serai mort, on va mettre une plaque contre le mur de la maternité et sur laquelle on va écrire, ici, est né le grenadier voltigeur Gérard Roy, le 14 mai 1934.
Et alors, pourquoi tu penses qu'il faut mettre une plaque?
C'était pour plaisanter avec Louison, qui était un petit gamin de 7-8 ans, quoi.
Montrechâteau, Danemarie, alors c'est le Sungo, de la frontière, c'est déjà le Sungo?
Il se trouve que Montrechâteau...
Alors, ici, on est encore...
Non, Montrechâteau se trouve dans le territoire de Belfort, à la limite du territoire de Belfort, et puis Danemarie se trouve déjà dans le Haut-Rhin.
Donc c'est le Sungo du Sud que tu connais, enfin du...
Oui. Dans le secteur, il y a trois Montreux. Il y a Montrechâteau qui est dans le territoire de Belfort, il y a Montrevieux qui est dans le Haut-Rhin, et Montrejeune qui est aussi dans le Haut-Rhin. Mmh. Alors on parle toujours du secteur des trois Montreux. Et pendant la guerre... Il y avait la frontière entre l'Alsace était allemande. Pendant la guerre de 1939-1945, l'Alsace était allemande. Montrevieux et Montrejeune étaient allemands. Et puis Montrechâteau était français.
Et tes parents, ils sont du territoire de Belfort, alors, d'Alsace?
Comme mon père était cheminot à la gare de Montrechâteau, ben on habitait Montrechâteau pendant tout le temps de la guerre.
Donc vous étiez français?
On était français.
Pendant la guerre?
Et puis nos parents qui habitaient en Alsace à l'époque ne s'appelaient plus Roy. Les Allemands avaient germanisé les noms de famille. Alors mon oncle s'appelait Raoult, R-A-O-U-H. Et puis nous, de l'autre côté, en vieille France, on a conservé le nom Roy.
Ah ouais, c'est marrant, vous étiez vraiment juste sur la frontière de,
oui.
du truc, quoi.
Oui.
Bah, les deux frères auraient pu être ennemis, un dans l'armée française, l'autre dans l'armée.
Et bien, c'est ce que dit le gars dans le journal.
Ouais.
Il était dans cette situation. Lui était dans l'armée allemande, et puis il y avait des autres gens de sa famille qui étaient dans l'armée des libérateurs français. Alors il dit, eh bien, on aurait bien pu se trouver dans des situations où on se serait tiré dessus, quoi, sans le savoir.
Et là, toi, 39-45, tu venais de naître, là. T'es né en combien? 34?
Attends, en 1934,
Donc
oui.
T'étais un gamin, quoi, la Première Guerre mondiale.
Oui, mais je me souviens de tout. Je me souviens de l'arrivée des Allemands. Il y a quelques Allemands qui sont arrivés en moto. Et puis qui fouillaient les maisons. C'est comme ça que j'ai vécu l'arrivée des Allemands.
À Montrechâteau, alors.
À Montrechâteau, oui.
Et alors après, les Allemands, ils se sont installés dans certaines maisons.
Après, les Allemands se sont installés en France, quoi. Alors, il y avait deux zones. Il y avait la zone occupée et la zone libre. Alors, il y avait une séparation au milieu de la France entre ces deux zones. Alors nous, on était dans la zone occupée. Et puis la séparation se trouvait du côté de Vichy, par là, dans ce secteur. Il y avait une diagonale comme ça à travers la France. À l'époque, a été gouvernée par le maréchal. La France a perdu la guerre contre l'Allemagne. Et alors, il y a un armistice a été signé. Et c'est le maréchal Pétain qui était un général de la guerre de 14 qui avait fait ses preuves, qui a pris la direction du pays et puis qui a collaboré avec les Allemands, il n'avait peut-être pas le choix, et puis qui a commencé par arrêter les Juifs.
Parce que c'est tous ces Juifs qui ont été déportés français, c'était pas les Allemands,
hein. Oui.
C'était les Français, c'était Pétain qui a...
Oui, alors il y avait quelques familles de Juifs à Montreux-Château. D'un jour à l'autre, il fallait que les Juifs se cousent une étoile jaune sur le vêtement pour qu'on les reconnaisse. Et ils étaient déchus. Plus aucun Juif ne pouvait faire partie d'une administration.
Et avant ça, les Juifs, c'était normal, quoi.
C'était
ils pouvaient pratiquer leur religion comme ils voulaient.
C'était des citoyens à part entière, comme tout le monde, quoi.
Ouais.
Oui.
Et d'un coup...
Les pères avaient fait la guerre du 14.
Oui, les pères de ces Juifs. Il y avait une constatation à faire, c'est que la majorité des Français étaient antisémites. Tu vois ? Alors, ça avait occasionné une certaine jalousie. Tu vois ?
Et du coup, il y a beaucoup de Français qui étaient d'accord avec Pétain et avec la politique était faite qui dénonçaient aussi.
Il y avait la délation. Si tu en voulais à ton voisin, tu allais à la préfecture et puis tu le dénonçais. Et puis voilà, mais personne ne savait que tu étais allé le dénoncer. Et puis il le coffrait, puis il l'emmenait dans un camp ou dans un...
Mais les gens, ils savaient que les Juifs allaient dans des camps, étaient maltraités comme ça. Enfin, ils savaient ce qui leur arrivait après.
Moi, je me rappelle, enfant.
Ouais, toi,
non, on ne savait pas, mais je pense que dans les milieux compétents, ils devaient le savoir.
Ouais, là,
la population, ne savait pas tellement.
Ouais, là, vous étiez quand même à la campagne, et à l'époque, il n'y avait pas trop de médias et
oui,
de
mais
tout
j'ai
pour
vu,
vous informer.
J'ai vu quand une famille juive, à Montreux-Château, il y avait une famille juive qui s'appelait Lehmann. Et c'était des commerçants de bestiaux. Et puis un beau jour, moi je me promenais dans le village avec les gamins. Un beau jour, il y a les gendarmes de Montreux-Château qui sont venus. Et puis ils ont embarqué toute cette famille Lehmann. Tout de suite, comme ça, dans un camion, et fermé la porte à clé, puis embarqué la famille Lehmann. Et ils ne sont jamais revenus, tu vois.
C'est fou, hein,
ouais.
De vivre ça. Et après, du coup...
Et ça, j'ai vu comment ils les ont embarqués.
Ouais.
Ils les ont pas brutalisés, mais ils les ont mis dans un camion, et direction Belfort. Et après, je sais pas où ils sont allés, mais ils ne sont jamais revenus à Montreux-Château.
Vous avez appris beaucoup plus tard, quoi, tout ce qui s'était passé avec les Juifs.
À la libération,
Pétain,
à la libération,
il a fait,
on
tout,
a appris l'existence des camps. La population, mais je pense que dans les milieux... compétents, ils savaient.
S'ils les emmenaient, c'était bien.
Oui, il y avait des trains, des trains entiers de wagons de bestiaux dans lesquels ils mettaient les Juifs et ils partaient en Allemagne. Ils ne partaient pas pour aller faire du tourisme.
Et vous aviez des informations de la guerre et tout ça, vous l'aviez comment? Il y avait un journal à Montreux.
Oui, alors la guerre, les Allemands avaient saisi tous les postes radio. Il y avait des vieux postes, on écoutait les informations. Et puis alors, il fallait emmener les postes de radio à la gendarmerie. Et puis nous, il y a un gars de REP qui avait mis un poste chez nous. Alors on écoutait
en cachette
les informations
Mais
de Londres. Il y avait
émission?
Le général de Gaulle.
Oui,
le général de Gaulle n'a pas admis, n'a pas reconnu Pétain comme chef du gouvernement et il est parti en Angleterre. Et il a fondé un gouvernement provisoire de la France en Angleterre, tu vois.
Résistant.
Et puis alors, oui. Et alors,
vous entendiez à la radio ça.
Comment ?
C'était pas Pétain à la radio, donc. À la radio, c'était Londres.
C'était le général de Gaulle, oui. L'appel du qui a, il a commencé par l'appel du 18 juin. où il a dit « Nous avons perdu la guerre, mais on n'a pas perdu une bataille, il faut continuer. » Et puis, il s'est exilé en Angleterre, et puis il a reformé une armée française en Afrique du Nord. Parce qu'il y avait encore l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui étaient sous protectorat français. Et puis alors là, ils ont recruté des soldats, quoi.
Qui sont battus, en fait, des Algériens, des Tunisiens,
oui, les libérateurs qui sont venus libérer la France. Pas. C'était tous des basanés, hein.
Je les vois ici, à Belmadi.
Et dans les cimetières, tu peux voir, ce sont que des. Il y a beaucoup de tombes musulmanes.
Eh bien, il y avait un cimetière.
Oui.
Ici, musulmans.
Oui.
Parce qu'ils sont venus vivre, ils sont venus mourir à l'hôpital. Il y avait un hôpital au couvent pendant la guerre. Et alors, ils les ramenaient ici. Et c'est mon beau-père qui creusait les tombes. Et je ne sais plus en quelle année ils ont recherché et ils les ont tous regroupés à Cernay, je crois.
J'étais encore jeune, quoi, mais je lisais les journaux déjà, tu vois.
Il y avait aussi un journal ici dans le coin, là.
Non.
Non.
Le journal s'appelait La République de l'Est. Et c'était un journal qui appartenait à une famille d'aristocrates. De Montbéliard et du coin, je ne sais même plus leur nom. Je crois que c'était le marquis de Moustier ou un nom comme ça.
Toi, tu lisais ça, du coup?
Oui, moi, je lisais déjà les articles de politique, puis j'écoutais les informations. Alors, les Allemands brouillaient. Alors, tu écoutais les informations. Ici, Londres, qui disait, puis ils commençaient à parler, puis les Allemands envoyaient des brouillages. Mmh. Alors, des fois, on entendait mal. Hein.
Ouais.
Ça faisait tout, 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 tout.
Et ils vous disaient quoi? Ils disaient
Ben voilà, il y a ceci, il y a cela. Et puis, ils envoyaient des messages codés. Alors, ils disaient, les carottes sont cuites, par exemple, tu vois.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Et en France, ceux qui recevaient le message savaient ce que ça voulait dire.
Ouais.
Tu vois. Toute la France était prête. Beaucoup de Français étaient en adoration devant Pétain. Et alors, à l'école, on chantait. On était obligé de chanter « Maréchal, nous voilà ».« Maréchal, nous voilà ». Tu vois ?
Ouais.
Et puis alors, il avait supprimé la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Qui était une devise franc-maçonnique. Alors on chantait « Maréchal, nous voilà », et puis on avait tous une photo de Maréchal Pétain accrochée au mur. C'était presque obligatoire d'avoir ça dans sa maison. Et puis alors, il a changé il a remplacé la devise des francs-maçons par « Travail, famille, patrie ». Tu vois ? Il a instauré la fête du travail.
Ah ouais.
Alors le 1er mai, il a dit, maintenant, à partir de telle date, c'est la fête du travail, et puis on va célébrer ça dans les églises, parce qu'il était de droite, Pétain. On va célébrer ça dans les églises le jour de la fête de Sainte-Jeanne d'Arc. Parce que dans les églises, il y avait une statue de Sainte-Jeanne d'Arc. Il y a beaucoup d'églises. À Bretagne, il y en a une encore. Je ne sais pas si tu...
Ah ouais ? Non, je ne savais pas.
Et puis alors, le jour du 1er mai, pour la fête du travail, tous les gens venaient à la messe avec un outil, un marteau, une hache, une scie, tu vois, pour célébrer dignement la fête du travail religieusement, si tu veux. Et c'est Pétain qui avait instauré ça.
Punaise, moi je croyais que c'était un truc vieux qui venait des ouvriers, la fête du travail, mais pas du tout.
Ben en fait. Non, Pétain, oui, travail, famille, patrie, hein, c'était dans la devise, quoi.
Et alors, tes parents et toi, vous avez fait quoi pendant tout ça, là ? Vous avez réussi à continuer à vivre normalement ?
Mon père a continué à travailler.
Ton père, il n'a pas dû aller se battre en tant que soldat ?
Il a été mobilisé quelques jours.
Seulement quelques jours ?
Et comme il travaillait à la SNCF, on avait besoin que les trains, il fallait que les trains puissent fonctionner, tu vois. Alors ils l'ont libéré au bout de quelques jours et il est revenu à la maison.
Ah ouais.
Tu vois.
Il a eu de la chance, hein.
Oui, il a eu de la chance. Et puis, alors, il y avait une pénurie de denrées alimentaires. Alors, on avait, on jardinait, on avait des plantations de tomates. On n'a pas eu faim, tu vois.
Et vous alliez à l'école, vous ?
Oui.
Quand même, il y avait l'école et tout.
Oui.
À part en allemand, du coup, vu que c'était dans le territoire, c'était en l'école en français.
Oui, à l'école française, oui. Ouais. Alors, je suis d'abord allé, tant quand la guerre a commencé, en 40, j'avais 6 ans. Oui, alors j'étais à l'école primaire, quoi. Et puis alors, on avait des instituteurs qui étaient tous radicaux-socialistes. Dans le territoire de Belfort, si tu voulais être instituteur, il fallait être un rouge. On les appelait les rouges. C'était des socialistes. Ils pouvaient pas... tous ces instituteurs, ils bouffaient un curé à chaque repas, tu sais. Voilà. Mais alors, c'était des gens qui sortaient tous de l'école normale. Il y avait des écoles normales d'hommes et des écoles normales de femmes. Où pendant 3 ans, à partir de la troisième, tu faisais un concours et puis tu allais à l'école normale et tu étais formé, tu devenais un pédagogue. Vraiment, tu savais enseigner.
Ouais.
C'était des gens très compétents, tu vois. Alors moi, à 9 ans, je connaissais déjà l'orthographe. Je crois que je l'ai pas amélioré depuis, tu vois. J'écrivais sans faute, tu vois.
Ouais, c'est marrant.
Oui, et aussi bien les hommes que les femmes, quoi. Mais ils étaient anti-curés, quoi, anti-cléricaux. Et si tu voulais faire une profession là-dedans, il fallait être radical socialiste. Et alors le chef des radicaux socialistes, c'était un dénommé Édouard Herriot de Lyon. Un gars qui sortait de l'ENA. Non, il n'y avait pas l'ENA encore à l'époque, mais qui sortait des grandes écoles. Quoi. Qui était un gars bien. C'était des gars bien, ces radicaux socialistes. Quoi. Mais ils étaient anti-religieux. Et c'est eux qui avaient plus ou moins fait voter la loi de 1905 sur la laïcité. Tu vois.
Et alors, ça a posé des problèmes
Ça, il y avait une séparation entre la religion et le reste vraiment stricte. Hein. Ouais.
Mais ça vous empêchait pas de... Vous alliez quand même à l'église, vous, là,
ah oui, dans la famille. On ne te reprochait pas d'aller à l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui, aux enterrements, n'entraient pas dans l'église. Ils restaient dehors, dehors de l'église. Et puis, ils accompagnaient le mort au cimetière après, mais
ouais.
Comme ça, tu vois. Mais ils ne voulaient pas entrer dans une église.
Parce qu'aujourd'hui, elle est encore comme ça, la loi, mais c'est pas
aujourd'hui,
tout à fait
y a, le cas. Aujourd'hui, il n'y avait pas de bonne relation entre les gouvernants et le clergé.
Ouais.
Tu vois. Maintenant, aujourd'hui, il y a de bonnes relations. Ils se rencontrent, ils se réunissent. Mmh. À l'époque, c'était pas le cas. Tu vois.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, à la fin de la guerre? Oui. T'as quoi? Alors, t'as 12, 13 ans, comme
oui,
ça
10 ans Les Américains ont débarqué en Normandie et puis l'armée française de libération a débarqué à Cavalaire, près de Fréjus. Alors les Américains c'était un débarquement horrible, hein, ce débarquement de... Il y a eu des morts, des milliers de morts et c'était atroce, quoi.
Et ça, vous l'avez su à la radio aussi, du coup?
On l'a su à la radio, oui. Et puis alors après, les autres, la première armée française que de Gaulle avait constituée en Afrique du Nord, ceux-là ont débarqué à Cavalaire. Et le gars là, qui a écrit cette citation, qui a 96 ans, faisait partie de cette première armée française qui a libéré Boulogne. Alors les Américains venaient vers Paris par le nord et puis l'armée française montait vers Paris par le sud. Et puis alors ils ont poussé les Allemands hors de France et c'est là qu'ils ont libéré l'Alsace. Et alors en 44 on commençait déjà à entendre les combats. Et on entendait tirer par là du côté de Montbéliard, ça tirait pam pam, c'était le front qui approchait. Alors la Croix-Rouge française a proposé de prendre les enfants du territoire de Belfort et du Haut-Rhin pour les mettre en sécurité en Suisse dans des familles. Alors, d'un jour à l'autre, ils sont venus trouver les parents en disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour que vos enfants partent en Suisse ?» Alors, mes parents, ils étaient d'accord. Ils ont dit « Bon, bah, ils seront protégés là-bas, quoi. Si, quand le front sera ici, ils seront en sécurité. » Alors, d'un jour à l'autre, on nous a embarqués dans le camion du laitier. On nous a rassemblés tous avec notre petite valise. Et puis, on nous a embarqués dans le camion du laitier qui ramassait le lait chez les paysans. Ils avaient mis des... C'était un gros camion. Ils ont enlevé les bidons de lait. Ils ont mis des bancs. Et puis, nous voilà partis à Delle. Et puis, on avait tous un mouchoir... au cas où l'aviation nous aurait repérés, il fallait agiter des mouchoirs. Parce que les Américains, les avions américains patrouillaient et bombardaient, quoi, et mitraillaient. Et puis alors, arrivé à Delle, je vois la frontière suisse, je n'avais jamais vu la frontière suisse, et les douaniers suisses habillés comme les Allemands, en vert.
Ouais.
Ils avaient le même uniforme. Alors, ils nous ont ouvert la barrière. Il y avait des barbelés à Delle. Et puis, ils nous ont emmenés. Il y a un village qui s'appelle Boncourt, qui se trouve en Suisse. Et puis, alors là, ils nous ont identifiés. Ils nous ont demandé nos noms, nos adresses, et ils nous ont foutu à chacun un carton avec le nom, l'adresse et notre infirmité. S'il y en a un qui voyait que d'un, je me rappelle,
ah ouais.
Ils ont mis borgne.
Oh, le pauvre.
Oui, alors, de Boncourt, ils nous ont mis dans le train et puis ils nous ont envoyés à Bâle. À Bâle, c'est la première fois de ma vie, moi, que j'allais à Bâle. Et à Bâle, ils ont commencé... à nous laver. Ils trouvaient qu'on n'était pas propre. Alors ils nous ont emmenés dans un hôpital, qui s'appelait qui existe toujours, le Hilfsspital. Et puis ils nous ont mis sous la douche et avec du savon noir, tu sais. Alors il y avait des gros seaux de savon noir. Ils plongeaient la main dans le seau puis ils la foutaient sur la tête. Et alors là, il fallait bien que tu te nettoies pour enlever ce savon noir.
Ouais.
Alors ils nous ont fait des sandwichs et puis on a passé la nuit sur la paille, à la gare de Bâle, à un endroit qui est toujours là, l'endroit. Je vois, quand je prenais le train, je voyais l'endroit où j'avais passé la nuit. Et puis ensuite,
Vous avez dormi dehors alors ?
Sur la paille, oui. Et puis après, ils nous ont embarqués dans le train, direction Fribourg. Dans le canton de Fribourg. Et puis là, on a passé 2-3 jours dans un camp, comme ça. Et puis ensuite, ils nous ont dispatchés dans les familles. Alors, j'étais avec mon frère aîné, et deux autres copains de Montreux-Château. Et alors, ils sont venus nous chercher à une gare, avec la calèche, les paysans, il n'y avait pas de voiture, hein, la calèche et puis le cheval. Et puis ils nous ont emmenés dans un petit village qui s'appelait, du canton de Fribourg, qui s'appelait Chéry. C-H-E-I-R-Y. Alors,
Tous les enfants ensemble.
Non, les quatre de Montreux-Château.
Ah ouais, ok.
Oui, on était quatre. Les autres, ils s'appelaient Freiburger. Et puis, alors, moi, ils m'ont mis dans une ferme à l'extérieur du village. J'avais deux vieux sans enfants. Et puis Charles, ils l'ont mis dans l'autre bout du village, chez un petit fermier aussi. Et puis les deux autres aussi. Et alors, on est resté 6 mois, jusqu'à la libération de la France, quoi, là-bas.
Voilà, tu pouvais quand même voir ton frère un peu, alors.
Ah oui, et alors, moi, j'ai pleuré. J'étais jamais sorti de la maison. J'ai pleuré pendant des jours. Alors, les premiers temps, ils ont envoyé Charles, qui a dormi 2-3 nuits avec moi, pour me consoler, quoi. J'étais inconsolable, tu vois. Et puis après, je me suis habitué, j'étais bien, quoi, dans cette famille.
Tu pensais que tu n'allais jamais retourner à Montreux-Château, ou quoi ?
Si, je lisais le journal. Si, puisque j'ai toujours lu les journaux, moi. Et le journal s'appelait La Liberté. Il existe toujours en Suisse. C'était un journal de curé, d'ailleurs. Et puis je lisais l'avancement, il y avait les articles sur la France, où ils disaient maintenant, les libérateurs sont à Montbéliard, ils sont ici.
Ils avancent.
Ils sont là. Et puis alors, j'avais le cafard. Alors je me suis dit, ben, je vais partir. Alors j'ai regardé dans les dictionnaires, les cartes comme ça, pour voir un peu le trajet. qu'il fallait faire pour revenir à Delle. Et puis je me suis dit, bon, je vais prendre mon baluchon et puis je vais partir, quoi, à pied, et retourner à la maison, comme ça. Et puis je ne l'ai pas fait, quoi.
Ouais.
Et alors là-bas, bah, on était un peu des immigrés, si tu veux, tu vois. Alors les autres gosses ne nous appréciaient pas tellement, tu vois.
Il fallait parler suisse, là.
C'était la Suisse romande.
Ouais.
Oui. Alors, ils nous ont mis à l'école. On était 60 à l'école. 60, pas pour un instituteur. Et alors, ils avaient déjà la scolarité jusqu'à 16 ans. Les Suisses ont toujours été en avance en matière d'éducation. Et puis alors, il y avait les différents niveaux, tu sais, de la maternelle jusqu'au départ, quoi. Et puis alors, les grands enseignaient les petits, 60, tu vois, un peu ce que c'est. Et on avait des bancs, on était 8 par banc. Comment? Oui. Et puis alors, nous, on était plus avancés qu'eux. Puisqu'on avait été chez des instituteurs francs-maçons,
ouais,
qui nous avaient bien formés, tu vois. Alors, on était meilleurs qu'eux en matière d'enseignement, quoi. Et puis alors, les instituteurs étaient mobilisés dans l'armée suisse. Et notre instituteur, un beau jour, il est parti dans l'armée. Et puis, il y a un vieux remplaçant qui est venu le remplacer, quoi. Mais qui était aussi un bon instituteur.
Les Suisses se sont aussi battus pendant la guerre,
hein? Eh bien, ils avaient mobilisé parce que les Allemands avaient prévu d'envahir la Suisse.
Ah ouais?
Oui. Okay. Alors, les Suisses avaient une armée assez importante. Ils se seraient battus, tu vois. Mm. Et alors, tout le monde avait ils avaient tous leur arme à la maison avec les munitions.
Ouais. Ça, c'est encore le cas. Hein?
Oui, c'est encore le cas. Et ils étaient mobilisables d'une heure à l'autre, ouais, tu vois. Alors, dans les villages, pour savoir qui était l'officier, il y avait celui qui avait un drapeau suisse devant la maison, c'était un officier. Alors, en cas de pépin, il fallait tout aller chez l'officier avec ton fusil et ton machin. Et puis, lui, il te donnait ton emplacement de combat. Et d'ailleurs, tu peux traverser la Suisse. Tu vois encore maintenant des maisons avec un drapeau suisse.
On en voit en France maintenant. Près de Ferrette, il y a des Suisses qui habitent et il y a le drapeau
oui,
suisse.
Oui, c'est vrai, ah, ouais, c'est vrai, à la frontière, là, tu le vois.
Oui, ouais. Alors, c'était des gens très pieux. Alors, on est arrivé, c'était la Toussaint. Alors, tous les soirs, on récitait le chapelet en famille avec les litanies des saints et les litanies de la Vierge Marie. Il y avait au moins une heure et demie de prière tous les soirs.
Oh, punaise.
De la Toussaint jusqu'à Pâques.
Ah ouais, ok.
Et puis alors, on allait à la messe. Il fallait traverser une montagne à Surpierre. Il n'y avait pas d'église à la Chérie.
Dans le village, ouais.
Il fallait aller à la messe à pied, puis revenir à pied, quoi. Et puis je me souviens être allé à la messe de minuit, moi. Bon, les gens chez lesquels j'étais avaient 60 ans, c'était des vieux à l'époque, à 60 ans. Et puis alors, ils m'ont dit, tu veux aller à la messe de minuit? J'ai dit oui, à Surpierre, quoi, il fallait faire 7-8 kilomètres.
Ouais.
Alors, bah, je suis parti tout seul, à 11 heures du soir, à Surpierre.
Mais tu voulais partir avec ton baluchon, tu l'as
non,
presque...
Non, ça c'était déjà oublié.
Tu l'as
et puis je traversais des forêts tout seul, comme ça, un petit mec de 9 ans. Tu vois, ouais. Comme d'habitude, tous les gens sont allés, après la messe, se recueillir sur la tombe de leur défunt. Et puis alors, moi, j'étais à cet office aussi. Et puis alors, tous les gens sont allés sur leur tombe, et moi, j'étais là comme un con. J'avais pas de tombe. J'étais au milieu d'une allée. J'avais pas de tombe. J'étais vexé, hein, malheureux, de pas avoir de tombe, comme tout le monde. C'était normal, quoi. Tu vois, ça aussi, j'ai le souvenir. Je me vois encore, là, au milieu de l'allée centrale. Les autres priaient sur leur tombe, et moi, j'en avais pas.
C'était mieux de pas en avoir, non?
Ben non, moi, j'ai senti que j'étais pas de là.
Ah oui, voilà.
Tu vois?
Ouais. Et t'es resté combien de temps, alors, en Suisse?
6 ou 7 mois. 6 ou 7 mois.
Et après, c'était libéré, du coup?
Oui, alors après, la France était libérée. Et puis on nous a rapatriés, quoi. Et puis alors c'est là qu'on a vu que tous les villages étaient à moitié détruits par la guerre, quoi. La plupart des maisons n'avaient plus de toit et tout ça, quoi.
Et la tienne de maison à Montreux-Château, c'était comment?
Elle était là où on habitait, elle était bonne. Elle n'avait pas été abîmée. On n'habitait pas loin de la gare parce que les bombardiers tiraient sur la gare, tu vois.
Ouais, c'était stratégique la gare, oui. Quoi.
Et alors, avant qu'on parte en Suisse, toutes les nuits, on entendait des nuées d'avions. C'était des forteresses volantes qui allaient bombarder l'Allemagne. Mais pendant des heures, ils passaient. Machinier qui bombardait l'Allemagne. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient bombardé Dresde au phosphore. Ils ont brûlé toute la ville avec les gens, avec des bombes au phosphore. C'était une catastrophe.
Vous saviez quand même, en tant que vous étiez des gamins là, mais vous saviez quand même tout ce qui se passait.
Oui, oui. Et puis ces avions, on se doutait bien qu'ils allaient. On savait qu'ils allaient bombarder l'Allemagne. Ils les appelaient des forteresses volantes. C'était des avions armés avec des canons, des mitrailleuses et puis des bombes. Et ils ont cassé la plupart des grandes villes allemandes. Oui, alors je suis revenu à la maison. Et puis ensuite, mon père a été... la gare de Montreux-Château était devenue moins importante. Et mon père a été muté à Bâle, à la gare SNCF de Bâle. Et à l'époque... et puis il y avait une école française. Alors on m'a mis pendant un an à l'école française. Et puis après cette année... on m'a inscrit au collège de Saint-Louis, la ville de Saint-Louis. C'était un des premiers collèges mixtes en France. Et dans les collèges, à l'époque, on ne mélangeait pas les filles et les garçons. Ouais. Il y avait les collèges de filles et les collèges de garçons. Et puis là, comme il n'y avait pas tellement d'élèves, ils n'ont fait qu'un collège mixte.
Parce qu'il était français.
Comment ?
C'est un collège en français, c'est
ça ? En français, oui, c'était la France. Ça, ouais. Et puis il se trouve que j'ai fait un concours, il fallait faire un concours d'entrée, et puis ils m'ont mis tout de suite en cinquième. Je n'ai pas fait de sixième.
T'as sauté une classe ?
Oui, j'ai sauté. Et je pense que j'aurais été, avec la formation que j'avais eue, j'étais bon, tu vois. Et je pense que j'aurais pu suivre en quatrième aussi. Et puis alors, je suis entré en cinquième, et puis alors... j'ai fait tout le cursus jusqu'au bac, quoi. À l'époque, il y avait deux bacs. Il y avait en première, tu passais le premier bac, écrit oral, et puis en terminale, le deuxième bac, écrit oral. C'était...
Mais il n'y avait pas de spécialité, du coup, quoi.
Non.
C'était tout
général, quoi. Y a le bac littéraire ou le bac scientifique.
Ah ouais, quand même,
oui.
Déjà, ouais.
Oui, et ou le bac pour les matheux. Oui, il y avait trois sortes de bacs. Et puis moi, j'ai fait le bac scientifique, oui.
Et il allait en vélo ?
Ah oui, alors on habitait à 4 km, non, à 5 km de ce collège. Et alors j'allais au collège en vélo, le matin, je revenais manger à midi, ça faisait déjà 10 km. Je retournais l'après-midi, ça faisait 15, et je revenais le soir, je faisais 20 km par jour.
Sportif, quoi.
Et pendant de la cinquième jusqu'en terminale. Alors, ce qui m'a fait faire des milliers de kilomètres, quoi. Et par tous les temps. Tout le monde roulait en vélo à l'époque. Quand tu avais de la neige, du verglas, tu roulais quand même sous la pluie aussi, tu vois. Ouais.
Et là, il y avait encore des douanes et trucs. Tu passais la douane tous les jours, là.
Quatre fois, je passais la douane quatre fois par jour. Et les douaniers nous fouillaient. Il y avait deux sortes de douaniers, il y avait les Suisses et les Français. Alors il fallait passer deux douanes chaque fois. Et à la longue, les douaniers nous connaissaient, mais ils nous fouillaient quand même. Tu vois. Oui, et puis alors on est devenu résident à Bâle, et les Français n'étaient pas bien vus à Bâle, puisque les Français n'étaient pas bien vus, on les traitait de soy français, de cochons français.
Parce que, considérés comme des gens sales.
Oui, les Français comme des gens sales et désordonnés, quoi. Et alors à Bâle, il y avait la délation. Les gens, les citoyens de Bâle se surveillaient entre eux. Et dès qu'il y en a un qui constatait quelque chose chez son voisin, il allait à la police le déclarer, quoi.
Ah ouais,
et alors un jour, mon père avait, acheté au marché aux puces une petite machine pour faire des chaussettes. Il y avait des aiguilles comme ça, puis une manivelle, et puis tu pouvais faire des chaussettes. Alors il a ramené ça à la maison, puis il a commencé à essayer de faire des chaussettes. Il n'est jamais arrivé à faire des chaussettes. C'était compliqué. Mais il y a des voisins qui avaient vu que mon père avait ramené cette petite machine. Ils nous ont dénoncé à la police en disant que mon père avait ouvert un commerce de fabrication de chaussettes. Et la police est venue hein, pour faire
un contrôle. Ils ont fouillé et tout là.
Oui, ouais. Oh. Tu vois, c'est pour te dire, c'est le beau cas de délation.
Ouais. Alors vous n'avez rien fait en plus, quoi.
Oui, on n'était pas bien vus. Un peu comme les Arabes ici, ou ouais. Tu vois, les machins, les trucs.
Vous étiez des immigrés, quoi.
Oui, des immigrés, oui. Et puis alors, tous les quelques mois, il fallait aller... on était contrôlé par la police des étrangers. Il fallait se présenter à la police des étrangers pour qu'ils t'interrogeaient, pour te contrôler, toi. Et puis après, j'ai fait 5 années d'université à Strasbourg. Et mes parents habitaient toujours Bâle, quoi.
Ils ont habité jusqu'à la retraite.
Oui, jusqu'à la retraite.
Ah ouais, d'accord. En fait, il a travaillé là-bas jusqu'à la retraite,
oui,
ton père.
Oui, oui. Et puis alors à la retraite, ils avaient acheté une petite maison à Montreux-Château. Oui, alors pendant mes vacances, je venais à Belmagny aider la famille, chez la famille Vadle, pour aider aux travaux de la ferme, quoi, les foins, la moisson, le machin. Et puis alors, j'avais repéré une petite jeune fille charmante qui s'appelait Georgette. Et puis, elle m'a tapé dans l'œil. Et puis, c'est là qu'ont débuté nos relations, si tu veux, si on peut dire.
On commençait à aller au Kilb. Hein, moi, j'ai toujours aimé danser. J'ai appris à danser avec ma mère autour de la table, avec Radio Beromünster, je ne sais plus comment, de la musique. Et alors, tous les jeunes du coin étaient amis. Donc, il y avait ses cousines. Moi, j'étais copine avec ses cousines. Et forcément, on allait aux fêtes ensemble.
Oui.
D'où, voilà, plus rapprochement.
Georgette, c'était la meilleure danseuse du coin, ici.
Moi, je lui ai appris à danser.
Alors, on allait aux fêtes des villages, on disait les quilbes.
Ouais.
Les quilbes des villages. Chaque dimanche, il y avait une fête dans un autre village. Et puis, on dansait, et puis, voilà.
Et alors, ici, Bréchaumont, c'était pas notre truc. Tu vois, on allait que dans le territoire pour danser. C'était la fête. Ici, c'était les quilbes, avec de la musique... de mon papa que disait, alors que dans le territoire, c'était les bals musettes.
Avec l'accordéon.
Les bals musettes.
À la française, quoi.
Voilà. Et on n'allait que dans les fêtes, dans tous ces villages, en vélo, naturellement. Ouais. Hein. L'après-midi, c'est seulement, je ne sais pas à quel âge, qu'on pouvait aller le soir. Et quand on revenait le soir tard, le beau-père, il nous réveillait encore plus tôt le lendemain.
Oui, alors chaque année, pendant les vacances, je revenais ici faire les travaux
alors,
d'affaires.
Donc Charles, jusqu'à,
pendant 5 ans, pendant mes 5 années d'université. Quoi.
Pendant que les aînés venaient, pas le plus jeune, tu vois, ils venaient moins. Alors Charles était toujours chez les tantes à Saint-Côme, et puis lui était toujours chez la tante à Belmagny.
Ça, c'était Vadel, c'est ma tante.
Oui.
Oui, la femme Vadel était la sœur de son père.
Quoi. C'était ma tante, quoi.
Oui. Et alors, je ne peux pas dire, il était habillé comme un grand-père, comme ça. Il avait toujours, c'était vraiment pas son truc. Et puis Charles était toujours tiré à quatre. Je le vois encore avec le petit costume gris, là, machin. Alors Charles, ils arrivaient lui en bas, l'autre en haut. Et alors je voyais descendre Charles. Alors je me disais, ah ben alors l'autre doit être là aussi. Alors je guettais, et alors on se voyait, les grandes vacances, et après on se voyait plus jusqu'aux vacances de Noël, et là il était là 3 jours, 4 jours, oui. Je sais pas, et après il y avait
Non, la Toussaint. Non, il n'y avait pas de Toussaint. La rentrée à l'université, c'était au mois d'octobre, oui. À l'époque. Donc, Noël. Et puis après, et ben Pâques. Mais il n'y avait pas 15 jours à Pâques. Hein. Et puis, il y avait le boulot, l'attendait, là, chez l'oncle. Hein. Il fondait du bois, oui. Ou je ne sais pas quoi.
Oui, je...
Voilà. Alors, on se voyait vite fait. Hein.
Alors, comment ça se passe, la drague, à 15 ans, en 1900... on est en quoi, là? En 1950?
C'était tout à fait autrement.
Et ben, c'est-à-dire que c'était pas « je te plais, tu me plais, puis on passe au lit hein, », à ce moment-là. Ah ben, ça, c'est sûr. Et c'était les belles années, parce que je l'avais dit à ton père à l'époque. C'était, tu sais, l'année des bons... l'époque des bons publics, tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça s'échemue, ça, tu sais, sur les bons. Et tu vas jusqu'à un certain point, voilà. Des moments absolument merveilleux. Tu vois, maintenant, c'est tellement facile, tu sais. On avait la trouille, il n'y avait pas de...
Il n'y a pas la pilule.
La pilule, ni rien. Hein. Et puis, une fille qui avait un enfant, et ben pauvre enfant et pauvre fille. Hein.
Oui.
C'était
sans aussi, mari. Hein.
C'était la trouille.
C'était un déshonneur.
C'était la
puis
trouille.
L'enfant, c'était un pauvre bâtard.
Qui nous tenait. C'est la trouille qui nous tenait, oui. Ça, c'est sûr. Mais il y avait, comment je veux dire, le garçon jouait le jeu. Je veux dire, il y avait un respect.
Oui.
Il attendait que tu sois prêt et tout. Il y avait un respect. Et donc, ça donne une solidité.
Il y avait aussi la religion qui nous imprégnait de religion.
Ça, c'est sûr. Mais oui, c'était une protection, moi, je dis toujours. C'était une protection, cette religion.
Oui.
Malgré tout. Bon, c'était... Tu pourrais plus faire revivre ça maintenant. Il faut voir aussi l'époque et tout ça. Mais naturellement... Il n'y avait pas les facilités, donc ça aidait aussi, il n'y avait pas ces facilités, mais on était sûr qu'on voulait attendre le moment propice, c'était dans la tête des deux, hein, c'était pas, on lutte comme des dingues,
ouais,
c'était difficile parfois, mais c'était un espèce d'idéal, quoi, aussi. Et souvent, après, on se disait, on a passé notre jeunesse pas comme il faut, quoi, etc. Et après, je disais, quand j'ai vu la suite, j'ai dit, eh ben, c'est nous qui avions raison. Parce que ce qui a eu la suite, comme ça, tu en as un, bon, tout de suite, on passe aux choses sérieuses. Puis, quelques semaines après, il y en a un autre et un autre. Et personne n'est satisfait, ni l'un ni l'autre. Et on s'est dit, ben, on a peut-être lutté, ça a d'abord fortifié notre amour, on a pu résister après à beaucoup de difficultés parce qu'il y avait ce truc très solide.
La base.
Est-ce que maintenant, est sûrement beaucoup plus difficile, il n'y a plus d'engagement. Déjà, ça a commencé, il ne faut pas se marier parce que c'est un engagement, hein. Voilà. Et donc, t'es pas marié, donc si ça va pas, tu vas voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et puis si ça va pas, tu vas voir ailleurs. Et ça, c'est autour de nous, il y a que ça, quoi. Alors on se dit, mais est-ce qu'ils sont plus heureux que nous quand on pouvait pas faire? Je crois pas. Alors que nous, on la regrette après, hein, combien de fois on a dit, qu'est-ce qu'on est passé à côté de nos jeunes années? Ben, après, il y a eu l'Algérie, tu sais, séparés pendant 28 mois.
Ça, c'était avant le mariage, alors?
Eh bien oui, avant le mariage.
On ne voulait pas se marier parce que d'abord, je n'avais pas d'emploi, et puis ensuite, on risquait de se faire tuer là-bas. Alors, tu voulais
donc,
pas.
Tu vois, ça a été très long jusqu'à ce qu'on ait pu se marier.
Ouais.
Parce qu'il y avait d'abord... soyez que vacances.
Cinq années.
Tu t'imagines ce que c'est?
Cinq années d'université.
Tu t'imagines ce que c'est? Heureusement qu'il y avait des lettres. Hein.
Cinq années d'université.
Il n'y avait pas de téléphone non plus.
J'allais vous demander, vous communiquiez quand même entre les vacances.
Oh là là, oh là là. Oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'avais dit aux noces d'or, hein. Je suis celle qui toujours... J'ai toujours attendu. J'ai attendu... J'ai attendu d'abord les vacances. Ensuite, j'ai attendu la fin des études. Ensuite, j'ai attendu la fin de la guerre. Ensuite, j'ai attendu qu'il trouve un boulot. C'était pas si évident. Un boulot en appart avant de pouvoir... J'ai toujours attendu.
Ensuite, t'as attendu trois enfants.
Ah, ça, c'était la joie. Ça, c'était pas la même chose. Mais les attentes de... J'ai l'impression que j'avais... J'ai toujours attendu. Ouais. Tu vois? Parce que le mariage, c'était pour nous...
C'était un engagement... il n'était pas question... On s'engageait, mais il n'était pas question de rupture. De divorce.
Oui, donc il fallait que ça soit le bon moment. Oui.
Mais c'était, quand tu as attendu, c'était l'explosion. Enfin, c'était des années merveilleuses, les premières années de mariage. Après, tu as déjà le souci des enfants, tu as déjà du souci. Mais c'était, enfin, nous, nos années, on n'avait rien. On était là, sous les toits et machin, sans rien, sans eau chaude, sans rien. C'était des années merveilleuses. Des années... jusqu'à la naissance de Jean, on était là, dans cet appart avec des voisins formidables. Enfin, on les a suivis jusqu'à la mort, c'est vrai, ces voisins. Mais on était, tu sais, on était les petits jeunes, tout le monde voulait faire quelque chose. Moi, j'ai des souvenirs de ces premières années. J'ai dit, on n'avait rien dans le porte-monnaie, mais on était heureux comme... Déjà heureux d'être ensemble, quoi. On supporte et on fait beaucoup de choses quand on est... Bon, après, il y a beaucoup de difficultés. On a eu beaucoup de difficultés dans notre vie, beaucoup, beaucoup. Dans tous les sens. Hein. Mais je veux dire que ça, c'est quelque chose qui va nous mener à la mort, quoi. Mais c'est vraiment, ça a été construit.
Et alors, en plus, on nageait à contre-courant. Parce qu'un gars qui a fait 5 années d'université, et puis qui épouse une fille de la campagne qui n'a pas fait d'études, c'était pas courant, ça, tu vois. C'était mal vu, même.